mais par actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 30 novembre 2017. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui. Le nombre d'étudiants à besoins particuliers explose sur les campus. Un cerveau à cartographier à Sherbrooke. Je me sens comme une rockstar, chronique de Mylène Moisan dans Le Soleil. Deux policiers qui se sont moqués d'une femme handicapée plaident coupables. En entrevue, je reçois Mohamed Gelassi, président de l'Association de développement des arts martiaux adaptés, qui vient de remporter un prix Altergo, et aussi Caroline Héroux, une mère de deux filles de 4 ans et 1 an, qui vit avec une basse vision. Le nombre d'étudiants à besoins particuliers explose sur les campus et dans la presse.ca. Chaque début de session, Julie Martin reçoit un courriel lui indiquant quelles mesures d'accommodement scolaire elle devra mettre en place pour les étudiants qui entreront dans sa salle de classe. Ces mesures sont variées, adaptées aux besoins des étudiants et vont par exemple du temps additionnel pour faire un examen à l'exemption de faire des travaux en équipe. Au fil des années, la chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, s'est pliée de bon gré aux demandes en provenance du service d'accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap. Aujourd'hui, c'en est trop, dénonce-t-elle. Son constat est juste. Les demandes d'accommodement ont non seulement augmenté de manière exponentielle dans les universités, mais elles ont changé de cap. Ce n'est plus avec les étudiants qui ont des déficiences motrices, visuelles ou auditives que l'on trouve le plus des arrangements, mais bien avec ceux qui ont des handicaps dits « émergents », entre guillemets, comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, les troubles de santé mentale et les troubles d'apprentissage. Certaines demandes sont insensées, estime la chargée de cours, comme le fait de déplacer un examen parce qu'un étudiant qui fait de l'anxiété ne peut pas en faire plus qu'un dans une journée. Ce genre de situation n'est pas unique à l'UQAM. Le président du syndicat des professeurs de l'Université Laval rappelle que l'inclusion de tous les étudiants est un droit fondamental, mais reconnaît que certaines situations peuvent être difficiles. L'argent investi dans le réseau universitaire n'a pas été à la hauteur de l'augmentation de cette nouvelle clientèle, déplore Jean-Marie Lafortune, président de la Fédération québécoise des professeurs et des professeurs d'université. Sur le site de Radio-Canada, ils sont peu nombreux, mais leur histoire est d'une grande tristesse. Des parents d'enfants lourdement handicapés qui sont hébergés de façon permanente se battent depuis des années pour dénoncer l'incohérence administrative dont ils s'estiment victimes. Pour Cynthia Julien, la survie de sa fille Maïna, 8 ans, est un combat de tous les jours. Maïna a manqué d'oxygène à la naissance et souffre d'une encéphalopathie convulsivante. Elle ne peut ni marcher, ni parler et est incapable de s'alimenter par elle-même. Maïna a passé les 3 premières années de sa vie avec ses parents, mais l'aggravation de sa maladie a amené les médecins à recommander son hébergement. Depuis 5 ans, Maïna vit au centre de réadaptation Marie-Enfant du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal. Lorsque son état le permet, elle sort le week-end pour passer du temps avec sa mère ou son père. Même bref, les visites de Maïna sont très exigeantes pour ses parents. À cette séparation douloureuse s'est ajouté un lourd fardeau financier puisque Québec exige une contribution financière pour le gîte et le couvert des enfants hébergés. Leurs parents reçoivent donc une facture mensuelle. Le gouvernement fédéral, pour sa part, considère les enfants placés comme n'étant plus à la charge de leurs parents et cesse de leur verser les allocations familiales auxquelles ils auraient normalement droit. Les parents doivent pourtant continuer de payer pour les vêtements, les jouets, les produits d'hygiène et les sorties de leurs enfants, sans compter leurs propres déplacements et les nombreux jours de travail marqués. Le problème est pourtant connu du gouvernement depuis longtemps. Dès 2003, le protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux écrivait dans un rapport que les parents qui font face à cette réalité se trouvent doublement pénalisés. Ils méritaient, selon lui, un traitement différent des autres placements d'enfants mineurs. Hier, on recevait Marilyn Turcot, directrice générale de Libre et Sauvage, qui recevait la semaine dernière le prix Reconnaissance Création Mon Rêve d'Altergo. Et puis aujourd'hui, on reçoit Mohamed Gelassi, président de l'Association de développement des arts martiaux adaptés, qui recevait lui aussi la semaine dernière, le 22 novembre, un prix d'Altergo, le prix Innovation Guy Langlois. Bonjour, M. Gelassi.
Oui, bonjour.
Toutes mes félicitations pour ce prix.
Merci infiniment. C'est
alors,
très gentil.
Ça me fait plaisir. L'Association de développement des arts martiaux adaptés, vous appelez cette association ADAMA. Qu'est-ce que ADAMA précisément?
ADAMA, c'est une famille avant tout et notre mission est l'inclusion des personnes avec des besoins particuliers par le biais des arts martiaux adaptés.
Et pour quel projet avez-vous gagné le prix?
C'était dans le cadre de l'Open International Multisport ADAMA qu'on avait organisé il y a quelques mois. Et c'était une première au Canada. C'est une compétition inclusive qui a permis à 107 participants, en majorité des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Il y avait des personnes également avec une limitation, avec un défi fonctionnel. Et toutes ces personnes ont pu participer à cette fête sportive dans laquelle il n'y avait aucun perdant parce que le principe était de renforcer l'estime de soi.
Oui.
Tous les participants sont partis avec des médailles et tout le monde est gagnant dans cette compétition.
Et quels sont les arts martiaux qui sont offerts par ADAMA?
Principalement, on a commencé avec le karaté.
Oui.
Il y a le karaté adapté. Et on a un excellent partenariat avec Judo Québec. Et depuis, on a développé avec Judo Jikan, qui est le deuxième plus grand dojo de Judo Québec, un programme de judo adapté. Également, on a de la boxe adaptée et on a du jiu-jitsu brésilien adapté.
Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui fait partie d'ADAMA? Est-ce que vous avez beaucoup de membres?
Tout à fait. Actuellement, on a dépassé les 1000 membres.
Combien?
1000 membres.
Oh, impressionnant.
C'est toute une réussite.
Oui.
Mais les membres qui font partie de ADAMA, ça inclut aussi les sympathisants, les parents et les personnes qui soutiennent notre cause. Donc, c'est pas toutes des membres qui sont qui vivent avec des besoins particuliers.
Oui, et plusieurs des sports adaptés pour plusieurs de vos sports proposés sont justement offerts pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Et je me posais la question, comment les cours se déroulent?
Les cours sont, comme le nom l'indique, c'est des cours adaptés aux besoins de chacun.
Oui.
Donc, on essaye de s'assurer d'impliquer les parents. Les parents sont les experts, c'est eux qui connaissent le mieux les jeunes. On passe souvent par eux pour passer certaines instructions. On parle souvent avec eux pour savoir c'est quoi l'objectif qu'ils veulent atteindre à travers la session. Mais aussi, on est toujours à l'écoute de nos participants et on adapte notre approche aux besoins de chacun.
Très bien. Et si on veut avoir plus d'informations sur ADAMA, est-ce que vous avez un site Internet? J'imagine que oui.
Tout à fait. www.adamacanada.org.
Et votre public cible, oui, on a parlé des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, mais vous ratissez large, si je peux dire.
Tout à fait. On croit dans l'inclusion sociale, tout comme Altergo et tout comme l'approche des associations qui travaillent dans le domaine de l'accessibilité universelle. On pense que chacun et chacune en a le droit de vivre dans une société équitable, juste et égalitaire.
Et qu'est-ce que ça vous a procuré comme sensation de remporter le prix Innovation Guy Langlois d'Altergo?
C'est toute une fierté, surtout recevoir ce prix de Altergo. Altergo, c'est un monument au Québec en accessibilité universelle. C'est une fierté vraiment. Adama est membre de Altergo et on grandit à travers ce membership et à travers ce partenariat. Donc, il faut le dire que Adama a été fondée en 2012, donc on est quand même une jeune association, mais on est en train de faire des pas de géant parce qu'on est entouré de personnes qui sont patients et passionnées par ce qu'on fait.
Alors, j'imagine que ça ne fait que commencer à nous éblouir, Adama.
c'est juste un début.
Oui.
C'est juste un début et je lance un appel pour vous,
les auditeurs.
Les auditeurs, exactement. Et je lance un appel pour visiter notre section Nouvelle sur notre page Internet. On a une formation ouverte à tout le monde samedi prochain, le 9 décembre, afin de former des entrepreneurs qui veulent s'investir et offrir des cours en arts martiaux adaptés.
Ah oui.
Et également pour les parents, les intervenants et les accompagnateurs, cette formation pourrait les outiller afin d'accompagner des participants ou des futurs participants en arts martiaux adaptés.
Le 9 décembre, et ça se passe où?
Le 9 décembre, c'est au complexe récréatif Gadebois, c'est de 9h à 17h. Sur notre site Internet, il y a une rubrique formation, là où il y a toute l'information, et aussi la rubrique nouvelle. On est pas mal à jour, il y a toute l'information concernant toutes nos activités. On a également une page Facebook dans laquelle qui est un moyen très efficace pour rester en contact avec nos membres.
Mohamed Gelassi, merci pour cette entrevue. Merci pour cette implication de votre part, président de l'Association de développement des arts martiaux adaptés, Adama. Et bravo pour le prix Innovation Guy Langlois d'Altergo.
C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et je vous lève le chapeau également. Canal M nous donne une belle visibilité pour toutes les associations qui travaillent dans ce domaine. Un grand merci et on ne lâche pas la patate.
Non, c'est tout naturel. Merci à vous. À la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Dans la tribune.ca, un cerveau a cartographié une nouvelle chaire de recherche dont les travaux pourraient révolutionner la façon de traiter l'Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques, de même que le trouble de l'autisme, vient de voir le jour à l'Université de Sherbrooke. Dirigée par le professeur-chercheur Maxime Descoteaux de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke, la chaire de recherche en neuroinformatique compte cartographier le cerveau humain afin de permettre aux médecins et aux chirurgiens d'intervenir de façon plus précise et moins invasive lorsqu'ils ont à poser des diagnostics ou à traiter certaines maladies liées au cerveau. Ce qu'on cherche à faire, c'est un peu le Google Map du cerveau humain, explique le professeur Descoteaux. On n'a toujours pas la carte complète du cerveau avec toutes ses multiples connexions. En fait, c'est comme si on était des explorateurs de la Nouvelle-France qui débarquaient en Amérique, mais sans chemin, sans carte, ni GPS. On essaie donc de trouver cette carte cérébrale. Outre les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, les travaux de la chaire de recherche pourraient avoir une incidence sur d'autres pathologies telles que la sclérose en plaques, le trouble de l'autisme ainsi que les commotions cérébrales. Dans le soleil d'aujourd'hui, ce qui rend Zoé heureuse, me lever tous les matins et dire bonjour aux gens que je connais, ça, et manger de la pizza. Zoé fréquente l'école Champagnat-Guillaume-Couture où lundi et mardi, on a célébré la différence des élèves qui la fréquentent. Elle et 27 autres jeunes de 13 à 19 ans ont eu la chance de se faire coiffer, maquiller, bichonner et prendre en photo par une vraie photographe. Pendant 2 jours, on n'a pas parlé de spectre de l'autisme ou de déficience intellectuelle. On a jasé beauté et passion. Le projet en est à sa 2e année. Il porte un nom tout désigné, La beauté dans la différence. Il est né de la rencontre de la photographe Amélie Boucher et d'une enseignante au cœur grand comme la terre, Andréanne Gilbert, qui a convaincu plein de gens et les autres profs d'embarquer dans cette folle aventure. Cette année, tous les jeunes étaient accompagnés de la personne la plus importante pour eux. Il y avait des mères, quelques pères, des sœurs, des frères, un beau-frère, une tante. Tommy, lui, est venu avec Frédéric, son superviseur de stage chez Cycle Lambert. Tommy adore le vélo. Il y avait même une équipe de tournage pour un documentaire. Andréanne m'a aussi convaincue, j'ai rencontré les 28 élèves l'un après l'autre, une entrevue de journal, comme pour les vedettes. Ils se sont tous prêtés au jeu, même si pour certains, le simple fait de parler à une personne qu'ils ne connaissaient pas relève de l'exploit. Les jeunes m'ont parlé de leur passion, beaucoup de partisans du Canadien qui veulent tous que Pique et Subban reviennent. 2 journées toutes spéciales à se sentir beau, au milieu des regards portés sur soi. Il fallait les voir tout sourire comme Zoé qui a choisi avec soin ses vêtements. Un gilet avec une tête de mort et une jupe en cuir? Pourquoi? Parce que je me sens comme une rockstar. Et je m'entretiens maintenant avec Caroline Héroux, qui a 2 filles, une de 4 ans et une autre d'1 an. Elle a une basse vision, Madame Héroux. Elle ne voit pas de l'œil gauche et voit à 40% de l'œil droit avec un champ visuel restreint à cause du diabète de type 2 qui l'a touchée à 23 ans. Bonjour, Madame Héroux.
Oui, bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté de témoigner des bienfaits du groupe de soutien pour futurs et nouveaux parents, groupe qui s'intitule « Vous vivez avec une perte de vision et avez un enfant de moins de 5 ans ou comptez en avoir un bientôt ». Vous avez participé à ce groupe mis sur pied par i.n.ca, donc INCA ou INCA. Pourquoi faire partie d'un groupe comme celui-là?
Ah, ben ça part d'un besoin, tout simplement.
Hein. Oui.
Lorsque j'étais enceinte, j'étais cognée à plusieurs places, puis il n'y avait pas d'atelier qui pouvait ressembler à celui-là. Alors, c'est ça. Ça part d'un besoin.
Oui, certainement. Et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Ben, c'est ça. Ça apporte beaucoup de choses. Dans ces ateliers-là, dans ces conférences-là, il y a beaucoup d'échanges qui se partagent, hein, des trucs, des conseils, des stratégies avec d'autres parents qui vivent la même situation.
Oui, on se sent moins seul.
On se sent moins seul. Puis comme je vous dis, c'est vraiment le partage. Hein. Moi, j'ai eu des trucs que je vais appliquer dans mon quotidien grâce aux autres parents qui ont aussi la basse vision.
Quel genre de trucs?
Je vais y aller vite. Là. J'ai un truc d'ailleurs au parc. Bon, j'ai 2 enfants, 4 ans, 1 an.
Oui.
L'âge est différent. Alors, quand on va au parc, je suis dans la balançoire avec mon bébé de 1 an. Ma plus grande de 4 ans est dans les modules. Puis là, j'ai réalisé cet été que j'étais moins au parc parce que ça me stressait un petit peu. Parce que normalement, je suis dans les modules avec ma grande de 4 ans.
Oui.
Alors, il y a un parent qui me dit, ben, amène des petits jouets pour jouer dans le sable, là, proche du module, au lieu d'être un peu plus loin dans la balançoire. Alors,
C'est tout simple,
c'est ça. Mais des fois, dans notre quotidien, on y pense tout simplement
pas. C'est ça.
Oui, et puis c'est ça, il y a eu d'autres trucs intéressants.
Comment s'appellent vos filles?
Ma grande s'appelle Mila Rose et ma plus petite, Juliette.
D'accord, de très jolis prénoms. Et quelles sont les craintes ou les préoccupations que l'on a lorsqu'on veut devenir père ou mère et qu'on a une déficience visuelle, selon vous?
Oui, bien, dans mon cas, moi, là, ma crainte, c'était beaucoup au niveau de tous les soins de santé. Si papa n'y est pas, le Tempra. Vraiment veiller aux soins de l'enfant, ça c'est quelque chose qui me stressait beaucoup au départ. Alors j'ai pris les devants là pour m'aider là-dedans. Et puis, bon, comme là, si je vous parle aujourd'hui, là, c'est beaucoup les devoirs qui vont venir un jour, l'année prochaine, en fait, ça s'en vient vite, mais c'est quand même un stress. Puis j'ai pu parler à des parents que les enfants allaient déjà à l'école, puis ils m'ont donné des trucs, des conseils. Donc, ça m'a aidé à diminuer mon anxiété.
Oui, tant mieux. Alors, parce que j'imagine que c'est ça, il y a beaucoup d'angoisse, d'appréhension. Mais quand les enfants commencent à être un peu plus grands, qui commence à parler, est-ce que j'imagine que ça va être un peu plus sécurisant de mieux communiquer avec eux pour justement faire baisser quelques angoisses, faire tomber le stress? Qu'est-ce qu'ils comprennent, ces enfants-là?
Ben, par rapport à la base vision?
Ben, oui, c'est ça.
En fait, ben, on en a parlé hein, d'ailleurs dans notre groupe. Puis la plupart des parents disaient que les enfants comprennent. Hein. Ils comprennent tôt parce qu'ils vivent avec nous. Si je parle, je prends mon exemple à moi, ma fille, là, tu sais,
celle de 4 ans?
Oui, pardon. Mila Rose.
Lina Rose.
Mila, M-I-L-A.
Mila Rose, pardon, oui, j'avais entendu.
Mais non, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est ça, quand elle a commencé à parler, à compter, je lui ai dit rapidement que maman ne voyait pas bien. Donc, tu sais, ça devient son quotidien assez agir avec maman. Mm-hmm. Puis assez aussi qu'avec papa, c'est différent. Tu sais, avec maman, elle reste toujours plus proche de moi.
Ah
avec
oui, d'accord.
Papa, elle peut s'éloigner. Tu sais, ça, c'est naturel, là.
Oui, c'est ça. C'est pas rationnel, c'est instinctif.
Oui, oui.
Et la petite d'un an, elle, comment elle réagit ou agit, la petite Juliette?
Ouais. Ben, elle est jeune encore.
Oui.
Mais tu sais, déjà là, tu sais, elle se met. C'est pas arrivé qu'elle vient derrière moi. Tu sais, si je me tourne vite, puis mm-hmm. Elle est tout le temps sur le côté. Tu sais, c'est. Mais jeune encore, là.
Oui.
J'ai pu remarquer ça.
Et les rencontres que vous avez faites, il y en a eu combien de rencontres?
Oh là là, de mémoire, je crois qu'il y en avait eu. Je crois que c'était 8.
8? Et comment ça se déroule? Ça dure combien de temps?
C'est une heure.
Oui.
Et puis, c'est ça, à chaque semaine, là, on parle d'un sujet différent. Mm-hmm. On a parlé justement des trucs, des conseils. On peut parler aussi du parent dans la communauté, du transport. Tu sais, il y a plein de points comme ça là, qu'on peut parler, discuter à chaque semaine.
Est-ce que quelqu'un pourrait animer ces rencontres-là? Oui.
Oui, Naja Nouri qui animait les rencontres.
Oui.
Puis, c'est ça, elle amenait le sujet. Puis, bon, c'est tout le monde ensemble qui discutait. Puis, les nouveaux, les futurs parents, pardon, pouvaient poser des questions, mais il y avait beaucoup d'écoute de leur part. Ils allaient chercher des réponses à leurs questions.
Donc, tous ceux et celles qui auraient des problèmes de vision, vous conseillez de faire partie ou de participer à ces rencontres-là, groupe de soutien. C'est quand même assez long, là, vivez avec une perte de vision et avez un enfant de moins de 5 ans ou comptez en avoir un bientôt. Alors, c'est le titre hein, de ce groupe de soutien pour futurs et nouveaux parents?
Absolument, puis je dirais sans hésitation.
Oui.
Que ça peut apporter beaucoup. Qu'on pense avoir un enfant ou qu'on en a déjà, ça l'apporte. Puis ça, c'est gros, là, mais quand on finit, on sort grandi.
Ah bien, tant mieux. Caroline Héroux, je suis très contente. Puis vous saluerez vos deux petites filles de notre part. Et si on est intéressé, on peut communiquer avec Najla Nouri, c'est ça?
Exactement.
J'ai le numéro de téléphone devant moi, 514-934-4622, 514-934-4622, poste 232. C'est donné par INCA. Merci beaucoup, Caroline Héroux, et à une prochaine.
Oui, merci. Bonne journée à vous.
Vous aussi.
Au revoir.
Les agents SASA Leslie Jouveau et Matthew Saris du service de police de Toronto ont plaidé coupables mardi d'inconduite professionnelle devant un comité de déontologie. C'est sur le site de Radio-Canada. L'échange en novembre 2016 avait été capté par la caméra de leur autopatrouille. Sur la vidéo, on peut entendre M. Sligevo traiter Francie Munoz, une femme de 29 ans, atteinte de trisomie 21, de petite personne défigurée. On entend ensuite les deux agents rigoler. Ils étaient accusés en vertu de la loi provinciale sur les services de police, M. Sligevo, pour avoir utilisé un langage vulgaire, abusif ou insultant, et M. Saris pour manquement au devoir, puisqu'il n'a rapporté les commentaires de son collègue Il n'a pas rapporté les commentaires de son collègue à ses supérieurs. Les policiers ont par le passé présenté leurs excuses dans une lettre adressée à la famille Munoz, mais pas d'excuses officielles et publiques comme les Munoz le demandaient. Ils avaient l'occasion de présenter leurs excuses au tribunal et ils ne l'ont pas fait, a souligné Pamela Munoz, la mère de Francie. Après la fin des audiences, saurait démontrer qu'ils étaient sincères, a-t-elle ajouté. L'avocat des deux agents, Gary Cluley, a lu une lettre d'excuse au nom de ses clients pendant l'audience disciplinaire. Il affirme que ces mots ont autant de poids même si les deux hommes ne les ont pas prononcés eux-mêmes. Ça n'enlève rien à la sincérité de leurs excuses. Ces gars regrettent sincèrement ce qui est arrivé, a ajouté l'avocat une fois les audiences terminées. Une décision par rapport aux sanctions doit être rendue dans les prochains mois. Former les jeunes au pilotage de drones améliore leurs perspectives d'embauche en dehors des entreprises adaptées. C'est dans lemonde.fr. Il y a des débouchés dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans la surveillance aérienne, auprès des collectivités locales qui veulent entretenir le patrimoine et le valoriser par des films, par exemple. C'est en regardant une vidéo qui montrait un drone survolant un immeuble que Mark Witzak a eu l'idée de créer une formation au pilotage de drones pour les jeunes handicapés. Grâce à un drone, une personne en fauteuil roulant peut inspecter une toiture, détecter des déperditions de chaleur ou contrôler des lignes électriques. C'est un moyen d'insertion professionnelle et pas seulement en entreprise adaptée, souligne le directeur de l'Institut d'éducation motrice, IEM, de Liévin, dans le Pas-de-Calais. Cet institut, qui fait partie du réseau de l'Association des paralysés de France, accueille quelque 90 personnes handicapées physiques âgées de 12 à 20 ans. La formation au pilotage de drones s'adresse à ceux qui ont entre 16 et 20 ans. Elle consiste en une partie théorique de 49 heures qui prépare les jeunes au brevet théorique de pilote professionnel délivré par la Direction générale de l'aviation civile. S'y ajoutent 80 heures de pratique et 80 heures d'apprentissage de la production, du traitement et du montage photo et vidéo. Le projet a reçu le prix À tout soleil 2017. Merci à mes invités, Mohamed Gélassi, Caroline Héroux. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Mathieu Tessier. Ici Hélène Denis qui vous remercie, vous, d'avoir été à l'écoute et je vous retrouve au Par Actualité la semaine prochaine. Bon week-end!